un ministre éthiopien est venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et on voit dans ce texte une question qui est posée, mais comprends-tu ce que tu lis? Et on voit tout de suite que des fois on peut lire la Bible, mais pas forcément comprendre ce qui est écrit. Vous savez que la Bible, c'est le message qui nous a été donné, mais ce qui est important, c'est pas simplement de le lire, mais c'est de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est lorsqu'on a bien compris ce que ça voulait dire qu'on peut accepter le message ou non. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va faire une lecture qui, vous allez voir, ne va pas être très longue. Mais rien que là, il y a des choses qu'il nous faut expliquer. Donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 1er, il est écrit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Amen. On s'arrête là. C'était pas une très longue lecture, hein. Mais je vais le relire quand même, parce que c'est pas long. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce que déjà on comprend ce que ça veut dire? Parce que dans ce verset, il y a certains mots qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des mots, des fois, qui sont utilisés dans la Bible, parce que ça a été écrit à une certaine époque. Le message est actuel aujourd'hui, mais il y a des mots qu'on ne connaît plus. Et des fois, on a besoin qu'on nous explique ce que ça veut dire. Parce que si on ne nous l'explique pas, on ne peut pas comprendre. On entend, mais on ne comprend pas. On entend des mots, mais on ne comprend pas leur sens. Si par exemple, à un moment, je vous parlais d'un mot, je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un palindrome? Ben moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais juste que j'ai déjà entendu une fois et que ça sonnait bien. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est les mots que l'on peut lire dans les deux sens. Voilà. Bon. Ben vous savez, on peut en parler, je vous dis, ah c'est joli les palindromes, mais si personne ne sait ce que c'est, ça ne veut rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de comprendre les mots. Et là, dans ce texte, il y a plusieurs mots. Déjà, le premier mot qu'on voit, qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, à part dans les églises, c'est le mot évangile. Commencement de l'évangile. Là, on lit l'évangile selon Marc. Donc, c'est un évangile qui a été écrit par Marc. Ça veut dire quoi, l'évangile? Ben, l'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un message qui est heureux, un bon message. C'est un message qui fait du bien. Et lorsqu'on dit qu'on annonce l'évangile, lorsque l'on fait une réunion d'évangélisation, c'est pour dire qu'en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y a un bon message. Il y a quelque chose à entendre qui va vous faire du bien. Qui peut vous faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Et justement, l'évangile de Marc commence, où l'auteur, donc qui est Marc, va dire, c'est le début de la bonne nouvelle. C'est le début de quelque chose qui va vous faire du bien. Est-ce que vous avez déjà reçu des lettres à la maison? Oui. Est-ce que vous avez reçu des fois des mauvaises nouvelles? Ah, augmentation des impôts. Et bim, je n'étais pas imposable, je le deviens. Ah, ça ne fait pas plaisir. Puis des fois, vous pouvez recevoir peut-être, imaginons, une lettre, « Ah, vous avez gagné un voyage !» Bon, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Pour ceux qui aiment bien voyager. Comprenez? Ben, c'est ça, en fait. L'évangile de Marc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça vous intéresse de la connaître? Parce qu'en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Et c'est ce que l'on veut partager cet après-midi. Mais on voit que cette bonne nouvelle... Ce n'est pas à propos d'une méthode, ce n'est pas à propos d'une question d'argent. On voit que ces bonnes nouvelles, elles concernent une personne. C'est le commencement de l'évangile, donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme le disait Lucas dans les chants, si on est là cet après-midi, ce n'est pas pour parler d'une religion, ce n'est pas pour parler de règles qu'il faudrait appliquer ou ne pas appliquer. On est cet après-midi-là pour parler d'une personne. Et cette personne... C'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, le bon message, ce message qui fait du bien, qui rend heureux, c'est à propos d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Mais là aussi, souvent on entend souvent parler de Jésus-Christ. Mais vous savez, Jésus-Christ, c'est pas le prénom, c'est Jésus, et le nom de famille, c'est Christ. Le mot Christ, il a un sens aussi. Quand on parle de Jésus, quand on parle du Christ, ça veut dire quelque chose. D'autres traductions disent « bonne nouvelle », enfin « commencement de l'évangile du Christ, Jésus ». Ils inversent les mots, justement, pour pas qu'on fasse, pour pas qu'il y ait de confusion. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse voir, mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Christ ? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler tout le temps de Jésus-Christ, mais on a oublié que ça veut dire quelque chose. Dire que Jésus est le Christ, ça a un sens. Et si on n'a pas compris ce sens-là, en fait, on ne peut pas vraiment comprendre quel est le message. Donc le mot Christ, il veut dire quelque chose. Mais on voit qu'aujourd'hui, on l'utilise un peu comme le nom de famille, on l'utilise de manière machinale quand on parle de Jésus-Christ. En fait, on veut juste dire Jésus. Mais à l'époque, ce n'est pas ce que ça voulait dire. Alors on va faire quelques lectures pour vous convaincre de ce que je dis. Par exemple, si on va toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 61. Marc 14, verset 61, lorsque Jésus est jugé. Au verset 60, il nous est dit « Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. » Donc c'était la personne la plus religieuse, la plus éminente à l'époque. Donc le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ ?» Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus répondit, je le suis. Donc Jésus va dire, oui, c'est moi, je suis le Christ. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, et ça continue. Donc on voit qu'à ce moment-là, quand Jésus va dire qu'il est le Christ, ces personnes-là, à ce moment, ne vont pas croire en lui. Et quand elles vont entendre ça, elles vont avoir un réflexe, c'est de vouloir le tuer. C'est fort quand même. Donc la signification de ce mot-là, elle avait beaucoup d'importance pour l'époque. Si par exemple on va dans l'évangile de Jean au chapitre 10, par exemple. Jean chapitre 10, verset 24. Là aussi, c'est les Juifs, et les Juifs, donc c'est Jean 10, 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit. » Donc il leur avait déjà dit, « Et vous ne croyez pas. » Donc on voit que plusieurs fois dans la Bible, Jésus va affirmer qu'il est le Christ. Mais certains ne vont pas croire. Mais en revanche, par contre, si on va voir dans l'évangile de Marc, on est dans Jean, donc toujours dans Jean au chapitre 1er et au verset 41. Verset 40, donc Jean chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et au verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Bon, on voit dans ce texte qu'on a un homme qui s'appelle André et son frère Pierre, et André va dire, « On a trouvé le Christ ». On l'a trouvé. Un autre texte, dans Marc au chapitre 8 et au verset 29. C'est Jésus qui parle. Au verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur posa, donc à ses disciples, en chemin cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. Tu es le Christ. » On voit que le fait que Jésus soit le Christ, c'était fondamental. Parce que certains le croyaient, certains ne le croyaient pas. Ceux qui le croyaient s'étaient mis à suivre Jésus. Ceux qui ne le croyaient pas ont voulu le crucifier. C'est important de comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que Jésus soit le Christ. Alors, le mot Christ, c'était un mot qui était utilisé souvent à l'époque. Alors, c'était soit Christ, c'est grec, soit en hébreu, c'était le Messie. Mais en gros, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est celui qui avait l'onction. C'était loin de l'Éternel. C'était une personne qui avait reçu l'onction. Alors, est-ce que ça nous arrange ? Non. Ça veut dire quoi ? À l'époque, c'est qui recevait l'onction ? L'onction, c'est quoi ? C'était quand on venait verser un peu d'huile sur la tête de quelqu'un. Et quand on faisait ça, qu'on versait de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était pour l'introniser dans une mission. C'était pour signaler que cette personne, elle avait été choisie par Dieu pour faire quelque chose. On peut se demander, mais alors à l'époque, c'est qui était choisi pour être roi ? Et quoi ? Non, c'est pas que les aînés. On voit dans la Bible que, entre autres, ceux qui étaient choisis pour avoir et qui recevaient l'onction, c'était les rois. À un moment, il nous est dit, par exemple, on a l'histoire d'un homme choisi par Dieu pour devenir roi qui s'appelait Saül. Et quand il va être choisi par Dieu, le prophète va venir avec une fiole d'huile et il va lui verser sur la tête. Et c'est là que va commencer son règne. On va voir un autre homme, David, qui est pareil. Lorsqu'il va être choisi pour être roi, il va y avoir de l'huile qui va être versée sur sa tête. Ça va être des personnes qui vont recevoir l'onction. Et en fait, dans les écrits où il nous est parlé de David, de loin de l'Éternel, on pourrait le traduire le Christ de l'Éternel, ou le Messie de l'Éternel. Parce qu'au final, ceux qu'on appelait le Christ, c'était les rois. Et dire que quelqu'un était un Christ, c'était dire qu'il était roi. Et c'était reconnaître une personne comme étant le roi. D'ailleurs, quand les pharisiens vont livrer Jésus à Pilate, Pilate va poser la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus va dire, « Je le suis. » Lorsque Jésus va être crucifié, qu'est-ce qui sera écrit au-dessus de la croix ? Jésus-Christ, roi des Juifs. Il était roi. Dire que Jésus est Christ, c'est dire que Jésus est roi, mais pas n'importe quel roi. Si on va dans l'Épître aux Hébreux, voici ce qu'il est écrit à propos de Jésus. C'est Dieu qui parle, et les Juifs connaissaient ses prophéties. Mais au verset 8, c'est Dieu qui parle, et il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Ça, c'est l'onction. « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, et vieilliront tous comme un vêtement, etc. On voit au final que Jésus, le Christ, ce n'est pas un simple roi. C'était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque les gens reconnaissaient Jésus pour le Christ, c'est qu'ils reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu. C'est qu'ils reconnaissaient qu'il était Dieu qui était venu au milieu de nous. Les Juifs de l'époque ne supportaient pas cette idée, parce qu'eux, ils attendaient un roi qui allait prendre les armes. Ils attendaient un roi qui allait renverser l'occupant de l'époque, c'était les Romains. Ils attendaient un roi qui allait faire un triomphe en gloire. Mais ils ne reconnaissaient pas en Jésus le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas un roi qui est venu pour diriger d'une main de fer. Ce n'est pas un roi qui est venu pour qu'on le remarque, mais c'est un roi qui a accepté de prendre une couronne d'épines à la place de la couronne de gloire. Jésus-Christ, c'est un roi qui a accepté de prendre le roseau, d'échanger le sceptre pour le roseau. Jésus-Christ, c'est le roi qui a accepté de se dépouiller de sa gloire pour revêtir un manteau rouge d'écarlate. C'est un roi qui a accepté de laisser les louanges des anges pour prendre les injures. On voit que ce n'était pas du tout le roi qu'eux, ils attendaient. Mais c'était quand même le roi des rois. Et la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, a accepté de venir en tant qu'homme et il a accepté de souffrir pour nous, pour nos péchés. Dans Philippiens, au chapitre 2, il est parlé de Jésus-Christ et il nous est dit qu'il existait en forme de Dieu, mais qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit que Jésus, c'est Dieu qui s'est humilié pour venir au milieu de nous, mais qui, au milieu de nous, a accepté de mourir pour nos péchés. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimé de Dieu, et que vous êtes tellement aimé de Dieu qu'il a accepté de venir pour mourir pour vous. En tout cas, les disciples le croyaient. Ils croyaient que Jésus, c'était le Fils de Dieu, que c'était le roi des rois, et qu'il était celui qui avait été promis pour délivrer les hommes, pas simplement d'un occupant romain, mais c'était celui qui avait été promis, qui avait promis de venir pour les délivrer du péché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Et que vous acceptiez ou non, il est roi. Mais la question, c'est, est-ce que vous voulez qu'il soit votre roi ? En tout cas, les disciples, c'est ce qu'ils avaient choisi. Parce que quand ils appelaient Jésus, ils l'appelaient leur Seigneur. Les gens, quand ils voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui. En tout cas, ceux qui le voulaient. La question est, oui, Jésus-Christ est roi, mais voulez-vous qu'il soit votre roi ? Voulez-vous qu'il règne sur votre vie ? En tout cas, si vous le voulez, ben c'est ce que le Seigneur veut aussi. Il y avait les rois qui avaient reçu l'onction, mais il n'y avait pas qu'eux. On voit dans la Bible qu'il y avait aussi, en tout cas en Israël, une personne assez particulière qui recevait cette onction, c'était les sacrificateurs. En fait, en Israël, à l'époque, quand quelqu'un avait péché, quand quelqu'un avait fait le mal, eh ben, ils allaient dans un temple, et dans ce temple, ils offraient des animaux. Mais il y avait une personne qui était chargée de prendre ces animaux, de les égorger et de répandre le sang. Et ceux qui faisaient ces sacrifices, ça s'appelait des sacrificateurs. Et on voit dans la Bible qu'à chaque fois que quelqu'un avait commis le péché, avait fait le mal, eh bien, il fallait qu'un animal souffre pour la personne. Et dans la Bible, il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et c'est vrai que c'était vie pour vie. Parce que j'avais fait le mal, il fallait que quelqu'un paye. Et dans les lois de l'époque, eh bien, dans les lois que Dieu avait instituées, celui qui payait, ce n'était pas un autre homme, celui qui payait, c'était un animal. Et à chaque fois, tous les ans, à chaque fois qu'il y avait des péchés, une personne qui avait fait le mal venait, offrait un animal, et cet animal était mis à mort. Et parce que c'était lui qui payait, qui souffrait, bah, celui qui avait offert l'animal était libéré. C'était des sacrifices. Et dire que Jésus est le Christ, c'est aussi dire que c'est lui le grand sacrificateur. Et ce n'est pas un souverain sacrificateur qui est venu pour offrir des animaux. Il nous est dit que lui, il est venu pour offrir sa propre vie. Et ça, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Et au verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Et il nous est dit plus loin, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc on voit que Jésus-Christ, il est aussi, non pas simplement un Seigneur, mais il est aussi un sauveur. Les Hébreux, à l'époque, pour être sauvés de leurs péchés, ils passaient par un souverain sacrificateur. Ben, nous, aujourd'hui, c'est la même manière, sauf que le souverain sacrificateur, ce n'est plus quelqu'un qui est en Israël. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui est venu mourir pour nous. Et on voit que dire que Jésus, c'est le Christ, c'est dire que Jésus-Christ, il est celui qui pardonne les péchés, mais c'est dire aussi que Jésus-Christ, c'est celui qui règne, c'est le roi des rois. Mais là aussi, la question, c'est voulez-vous venir à lui pour être pardonné de vos péchés ? En tout cas, les Juifs de l'époque croyaient au pardon que Dieu donnait. Parce qu'à un moment, quand Jésus disait à, par exemple, une femme surprise en flagrant délit d'adultère, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », cette femme, elle le croyait. Quand Jésus disait à des gens « Je te pardonne », ces gens croyaient. Et au final, on voit que Jésus-Christ, oui, est roi, Jésus-Christ est Seigneur, mais la question que l'on peut se poser, c'est « Est-ce que vous le croyez ?» Parce qu'au final, on voit que, oui, Jésus est qui il a dit qu'il était, il est le Christ, mais certains ont cru, certains n'ont pas cru. Alors je vous pose la question, croyez-vous ? En tout cas, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que le Fils de Dieu est venu mourir pour nous, afin qu'on puisse être pardonné. Quand Jésus va commencer son ministère, on va le lire dans l'Évangile de Luc. Voici ce qu'il va dire. C'est dans Luc au chapitre 4. Au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, et il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc c'est Jésus qui a cherché le texte. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça veut dire que celui dont Ésaïe parlait, celui qui avait reçu le Saint-Esprit, celui qui avait reçu l'onction pour faire ces choses qui sont décrites, c'était lui-même, c'était Jésus. Et on voit donc tout son ministère. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » C'est cet après-midi, c'est cette bonne nouvelle que vous entendez, que Dieu aime l'homme et pour le sauver de son péché, il est mort à la croix pour lui. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que vous avez le cœur brisé, peut-être par des situations, à cause de votre péché, peut-être qu'il est brisé sous la culpabilité, peut-être qu'il est brisé par toutes sortes de choses. Jésus-Christ est celui qui a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être que vous êtes captif, que vous ne pouvez pas vous sortir de certains péchés. Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus fortes que vous. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Peut-être que vous vivez comme ce que disait l'apôtre Paul, que vous ne faites pas le bien que vous voulez, et que vous faites le mal que vous ne voulez pas. Il y a quelque chose de plus fort que vous. Jésus-Christ, il a été envoyé pour vous délivrer de tout ce qui peut être plus fort que vous. C'est lui qui a été envoyé. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Peut-être que spirituellement dans la vie vous n'y voyez rien, vous ne voyez pas l'avenir, vous n'avez pas d'espérance. Tout ce que vous voyez c'est que des choses qui sont sombres, qui sont mauvaises. Jésus est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. peut-être que vous êtes opprimé par le péché ou peut-être par toutes sortes de choses mauvaises. Peut-être que vous avez touché à des choses comme de la magie, vous êtes allé voir des voyantes, et depuis que vous avez fait ça, vous êtes tourmenté. Il n'y a plus de paix. Vous avez vu que les angoisses ont augmenté de plus en plus. La nuit, vous ne dormez plus, ou des choses de cet ordre-là. Peut-être que vous êtes opprimé parce que vous avez ouvert la porte à des choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Ben, Jésus-Christ est venu pour libérer les opprimés et pour publier une année de grâce. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est nous faire grâce. La Bible dit que Dieu ne veut pas nous traiter selon nos péchés, mais il veut nous pardonner et il veut nous faire grâce. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne mérite pas, les guérisons, les libérations, recouvrer la vue, recevoir la paix, toutes ces choses que personne ne mérite, il veut les donner. Parce que c'est un Dieu qui aime à faire grâce. Et il nous aime tellement, il veut tellement nous faire grâce qu'il a payé le prix pour qu'on puisse recevoir ces choses. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si on peut recevoir la paix, c'est parce que le châtiment, tout ce que nos péchés méritaient, elles sont tombées sur lui. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et si on peut recevoir la guérison, qu'elle soit psychique, qu'elle soit dans notre corps, qu'elle soit spirituelle, si on peut recevoir ces choses, c'est parce que c'est lui qui a été meurtri. C'est écrit qu'il a libéré les opprimés. Et si nous, on peut être libérés, c'est parce que c'est lui qui a accepté d'être lié à notre place et d'être emmené jusqu'à la croix. Et on voit au final que si on peut recevoir la vie, c'est parce qu'il a accepté de mourir pour nous. Ça, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul qui peut sauver. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car c'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Parce que c'est lui qui est allé à la croix. La question est, est-ce que vous voulez lui faire confiance? Est-ce que votre confiance, vous allez la mettre en lui? En tout cas, si vous le faites, la Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Si cet après-midi, vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps, si cet après-midi, vous choisissez de croire en Jésus, de croire en la bonne nouvelle, de croire qu'il est venu pour vous, qu'il est mort pour vous, mais aussi qu'il est ressuscité pour vous, et que cet après-midi encore, il peut faire ces choses pour vous, alors vous le verrez s'accomplir. Dieu vous a donné cette bonne nouvelle, Dieu vous a donné ce message. La question est, est-ce que vous voulez le recevoir? En tout cas, si vous le prenez, si vous le saisissez par la foi, comme l'ont fait ses disciples, comme n'importe qui peut le faire, alors vous verrez dans votre vie que de choisir de Jésus, que de mettre sa confiance en lui, alors lui, il fera dans votre vie tout ce que vous ne pouvez pas faire. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'être secouru, vous avez besoin de voir clairement les choses, venez à Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et vous verrez que tout ce qu'il promet, il l'accomplira dans votre vie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Seigneur parce que oui, tu es le Christ, Jésus. Tu es celui qui est venu, tu es celui qui avait été promis par Dieu. Tu es le roi qui a accepté de venir, mais qui est venu non pas pour nous juger, mais pour mourir à notre place. Et merci Seigneur parce que à cause de ce que tu as fait à la croix, Seigneur, aujourd'hui nous pouvons avoir la paix, nous pouvons avoir la liberté. Nous pouvons être délivrés du péché et de l'ennemi et nous pouvons nous placer sous ta bonne main, Seigneur. Nous pouvons choisir de te suivre. Merci parce que tu es aussi celui qui a versé ton sang pour nous à la croix. Et là aussi, nous voulons te dire merci parce que nous ne méritions rien. Et la seule chose que nous méritions à cause de nos péchés, c'était la mort éternelle. Mais là aussi, Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as offert ta vie pour que nous puissions être sauvés, nous puissions avoir la vie éternelle. Et parce que tu dis que de celui qui est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour lui. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.